Cabinet de santé, Marina Carrère d'Ancos.
C'est une pratique ancestrale dont les origines remontent à l'Antiquité. Le jeûne est en effet déjà mentionné dans des textes sanscrits rédigés plusieurs siècles avant Jésus-Christ, puis utilisé par de nombreuses cultures et populations à travers le monde et l'histoire. Depuis des siècles, il est en lien avec la religion. C'est le carême pour les catholiques ou les orthodoxes, le mois du ramadan pour les musulmans, les jours de Kippour ou Tisha B'Av dans le judaïsme, le jeûne lors de fêtes religieuses chez les hindouistes. Le but alors est de développer sa conscience philosophique, de tisser un lien fort avec la religion ou encore de commémorer des événements importants. Mais la dimension médicale est elle aussi fort ancienne. Dès 370 avant Jésus-Christ, Hippocrate pensait qu'il valait mieux soigner les petits maux par le jeûne plutôt que par la prescription de substances quelconques. Pour Aristote, la privation de nourriture était un remède courant. Claude Galien estimait qu'un jeûne prolongé pouvait rétablir l'équilibre chez l'être humain. Avicenne, lui, prescrivait 3 semaines consécutives de jeûne pour guérir certains de ses malades. Et enfin, pour le médecin chirurgien Paracelse, jeûner régulerait naturellement le corps humain. Et aujourd'hui, cette pratique s'est largement démocratisée ces dernières années et ses effets sur l'organisme sont très étudiés. Mais pourquoi jeûne-t-on? Quels sont les différents types de jeûne, leurs bienfaits et leurs risques? Y a-t-il des contre-indications? Comment bien pratiquer et que penser des stages de jeûne? Pour répondre à toutes ces questions, le professeur Gabriel Perlemutter est mon invité. Perlemutter, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le service d'hépato-gastro-entérologie et de nutrition de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Et votre dernier ouvrage, qui est, je dois le dire, très complet, concret et pratique, s'appelle « Jeûner en mangeant, santé, forme, poids, longévité ». C'est aux éditions Flammarion Versilio. Une petite question personnelle pour commencer. Je voulais savoir si vous pratiquiez le jeûne. Alors bien sûr, je ne vous parle pas de vos croyances religieuses. Hein, je ne m'immisce pas dans ces croyances. Mais le jeûne santé, est-ce que vous le pratiquez ?
Alors oui, j'ai évolué moi-même au vu de la littérature médicale et scientifique. Je travaille sur le microbiote intestinal, sur le foie, je vois beaucoup de patients. Et au fur et à mesure de la progression des connaissances et du fait que je vieillis, ce qui me permet d'être en vie, j'ai effectivement évolué quant à mon alimentation et je pratique le jeûne intermittent. Malheureusement, pas de façon idéale, et ça on va en parler.
Bien sûr.
Mais depuis plusieurs années, j'ai limité, voire arrêté de déjeuner. Avoir 12 heures entre le petit déjeuner et le dîner sans manger. Idéalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Tout le problème dans le jeûne intermittent, c'est de pouvoir concilier la médecine, la santé, la science par rapport aux nécessités sociales, sociétales et familiales.
On va y venir, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas tout seul, hein, puisque près de 27% des Français auraient déjà jeûné, ne serait-ce que partiellement. Alors, il y a des raisons médicales ou de bien-être, on va y venir. Il y a des raisons religieuses, on l'a dit. Mais en dehors de ça, il y a des convictions. On a l'impression que de plus en plus des personnes, et notamment des jeunes, jeûnent en réaction à notre société de surabondance. C'est vrai ?
Alors oui, c'est exact. Moi, je vois plus des patients, mais je vois aussi des personnes qui veulent savoir comment jeûner. On est dans un monde qu'on qualifie d'obésogène, où tout nous pousse à manger. L'alimentation est surabondante, la mauvaise alimentation, la publicité sur l'alimentation. On a une épidémie de surpoids et d'obésité. En France, plus de 45% de la population est en surpoids ou obèse. Aux États-Unis, c'est encore plus et l'espérance de vie commence à diminuer à cause de cette surabondance alimentaire. Et par opposition à cette société qui nous pousse à manger, cette société capitaliste, beaucoup de jeunes se mettent en opposition et pratiquent des restrictions alimentaires qui peuvent aller parfois très loin aussi. Et quand ça devient une obsession, ça devient une autre maladie qu'on appelle l'orthorexie. On est obsédé par son alimentation.
Est-ce que la perte de poids, c'est un motif fréquent de jeunes dans notre pays ?
Alors, oui, la perte de poids est un motif de jeûne, mais je dirais que ça va plus loin que la perte de poids. La perte de poids dans le jeûne, c'est ce qui arrive tout à la fin, c'est ce qu'on voit. Mais avant cette perte de poids, on va voir toute une amélioration métabolique du taux de sucre, du taux de cholestérol, du taux de triglycérides, des enzymes du foie, des protéines de l'inflammation qui va s'améliorer avant qu'on le voit cliniquement sur la perte de poids.
Alors, on l'a dit, hein, le jeûne peut être religieux, il est alors spécifique hein, selon les textes, bien sûr. Beaucoup d'adeptes aujourd'hui jeûnent pour se sentir bien, perdre du poids, améliorer sa santé. On va voir tout ça avec les études scientifiques, mais déjà, est-ce qu'on peut définir de manière globale, c'est quoi jeûner ?
Alors, le jeûne, c'est un arrêt de l'alimentation pendant un certain temps. Il y a un jeûne qui est tout à fait naturel, c'est le jeûne nocturne. Normalement, après le dîner jusqu'au lendemain au petit déjeuner, vous ne mangez pas, vous êtes en période de jeûne.
À part ceux qui se lèvent la nuit pour grignoter des sucreries.
Absolument, des sucreries ou autre chose. Et justement, c'est contre-métabolique parce que c'est le moment où l'organisme dort, où les hormones du sommeil sont élevées, où l'insuline et l'hormone de croissance va être élevée pendant la nuit, et c'est justement le moment où c'est le plus toxique pour l'organisme de manger. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle les personnes qui vivent à horaires décalés, qui travaillent la nuit, ont plus de risques de développer des maladies métaboliques.
Et ce jeûne intermittent dont vous parliez, qui est effectivement pratiquement le plus pratiqué, c'est quoi ?
Alors, il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pendant un certain temps, se priver d'aliments pour changer son métabolisme. Il y a deux grands types de jeûne intermittent. Il y a le jeûne 16-8. Pendant 16 heures, vous jeûnez. Pendant 8 heures, vous vous alimentez. Et pour que ça fonctionne, et c'est même les dernières recommandations de l'ANSES, c'est le dîner qu'il faut alléger. Il faut prendre son petit déjeuner. On va en parler, ce qui se passe au niveau métabolique. Et vous avez le jeûne 5-2, où pendant 5 jours par semaine, vous avez le droit de manger, en théorie, open bar, donc ce que vous voulez, si en fait dans les études on voit que c'est pas vrai, et pendant 2 jours par semaine non consécutifs, vous jeûnez. Alors en fait, le jeûne, c'est quoi en termes métaboliques ? Vous n'allez pas apporter de calories, mais en termes métaboliques, si vous apportez de l'ordre de 300 calories avec uniquement des légumes, ça peut fonctionner aussi très très bien.
D'accord, mais des légumes qui ne sont pas revenus dans du beurre.
Non, je dirais que c'est pas tant le beurre, c'est éviter d'apporter trop de protéines et trop de glucides, trop de sucre pour limiter la sécrétion d'insuline qui participe à l'anabolisme, c'est-à-dire au stockage, au vieillissement. Et quelque part, le beurre, c'est pas du tout ce qu'il va y avoir de plus toxique.
Et globalement, effectivement, le jeûne, c'est uniquement café sans sucre ou thé ou éventuellement bouillon de légumes, c'est ça.
Bouillon de légumes, pas de féculents. Pas de sucre, pas de jus de fruits. Voilà, c'est vraiment des légumes pendant un certain temps, si on veut quand même manger alors qu'on est en période de jeûne.
Alors, pendant que ce soit un jeûne, quels soient les types de jeûne intermittent, est-ce que sur la journée ou sur la semaine, c'est une restriction calorique du coup ou pas forcément ?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la restriction calorique, où presque toutes les études montrent qu'une restriction calorique de l'ordre de 20%, c'est-à-dire vous enlevez un cinquième de votre assiette, ce qui n'est pas tant que ça, ce que je recommande à mes patients, va entraîner une diminution de l'inflammation, une amélioration du métabolisme. Et ça, on ne peut pas le montrer chez l'homme qui vit longtemps, mais on peut le montrer dans des modèles animaux, une augmentation de l'espérance de vie. Et vous avez le jeûne intermittent, qui n'est pas une restriction calorique, mais une modification des horaires d'alimentation pour faire correspondre son alimentation à son cycle nictéméral, à son biorhythme, où là aussi vous aurez une diminution de l'inflammation, une amélioration de votre métabolisme et vraisemblablement, chez l'homme, en tout cas c'est montré dans des modèles animaux, une amélioration de l'espérance de vie. Et le luxe, c'est quand vous arrivez à concilier les deux, une restriction calorique qui est associée à une prise alimentaire qui correspond à votre biorhythme.
Alors ce jeûne intermittent est étudié scientifiquement depuis longtemps, et maintenant depuis les années 40, on voit tout de suite exactement ce qui se passe dans notre organisme. Carnet de santé aujourd'hui consacré au jeûne, une pratique de plus en plus répandue depuis quelques années. Quels sont ses bienfaits et ses risques ? Que se passe-t-il dans notre organisme ? On en parle avec le professeur Gabriel Perlemutter, hépato-gastro-entérologue et nutritionniste. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on jeûne de manière générale, sans entrer dans les différents types de jeûne, quand on commence à jeûner, il se passe quoi dans notre corps ?
Alors, on comprend bien, on parle du jeûne intermittent, pas de la grève de la faim, on jeûne pendant des semaines. Quand vous arrêtez votre alimentation, l'organisme va puiser sur les réserves. Pour vivre, on est obligé d'avoir un taux de sucre qu'on appelle la glycémie, relativement stable, entre 0,80 g et 1,10 g, 1,20 g. Puisqu'on va arrêter de manger, le foie va fabriquer le sucre dont on a besoin. Quand on jeûne, le foie va puiser sur ses réserves en sucre qui vont durer, en fonction des personnes, entre 12, 18 et 24 heures. Le muscle va aussi puiser sur ses réserves en sucre. Et puis après, il n'y aura plus de sucre pour maintenir un taux de glycémie normal dans le sang. Et donc, le foie va puiser sur ses réserves. Il va puiser sur les réserves en graisse. Et c'est pour ça que quand on jeûne, on va diminuer, après un certain temps, son niveau de graisse. Il va également pouvoir puiser, pour fabriquer du sucre, dans les muscles. Et c'est pour ça que quand on fait du jeûne, il faut avoir une activité physique pour que les cellules souches musculaires fonctionnent afin qu'on n'ait pas de perte musculaire. Et c'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, il faut faire attention quand on décide de faire du jeûne intermittent. De plus, pour assurer une production d'énergie, l'organisme va fabriquer ce qu'on appelle, après 12, 18, 24 heures de jeûne, ce qu'on appelle des corsets toniques. Ces corsets toniques peuvent faire, au début, un peu mal à la tête, un peu mal au ventre. C'est pour ça que chez les personnes qui jeûnent plus de 24 heures, plus de 18 heures, peuvent avoir un peu mal à la tête, et puis après ça passe. Ces corsets toniques peuvent avoir un effet anti-inflammatoire, un effet bénéfique sur le métabolisme, et dans des modèles animaux, un effet aussi anticancéreux. C'est probablement un des mécanismes par lesquels le jeûne intermittent peut augmenter l'espérance de vie.
Alors, on va parler de ces bienfaits thérapeutiques, mais il y a un effet auquel on ne pense pas quand on n'a jamais jeûné. Écoutez Andrea qui s'exprime sur ICI le 5 février 2024. Il avait quelques kilos en trop et il a tenté le jeûne. Écoutez-le.
La première fois que je l'ai fait, bon, évidemment, en une fois, j'ai pas perdu du poids. Par contre, j'ai vu quelque chose de fou. C'est qu'une journée où on ne mange pas, et ben, la journée d'après, on a beaucoup plus d'énergie. Ça revigore énormément. C'est vraiment ce que j'ai ressenti.
D'accord.
Après, au niveau de la porte de poids, je pense qu'il faut le faire plusieurs fois et il faudra bien voir.
Cet état de bien-être, cette augmentation de l'énergie qui est souvent décrit, c'est psychologique ou c'est vraiment physiologique ?
Alors, c'est les deux. D'une part, c'est psychologique parce qu'on a, c'est difficile de jeûner au début quand on n'a pas l'habitude. On change, on sort de sa zone de confort. Quand on a réussi, on est très satisfait d'avoir réussi, on est fier et donc on se sent bien. Mais il y a également, pendant le jeûne, des modifications métaboliques, des modifications de la synthèse d'hormones du plaisir, de la dopamine, de la sérotonine. Et certaines études ont montré que chez les personnes qui pratiquent de jeûne, eh bien, elles se sentent mieux, comme l'auditeur que nous venons d'entendre, elles se sentent plus fortes. Et par conséquent, l'effet sur la sensation de bien-être est double, à la fois métabolique et psychologique.
On va parler plus précisément après de l'effet sur le cancer et sur la longévité, mais sur la santé de nos organes et notre santé en général, qu'est-ce qu'on a prouvé ? Parce qu'on parle d'effets anti-inflammatoires, on parle d'effets sur le cœur, sur le foie, sur la santé mentale. Les études ont montré quoi aujourd'hui ?
Alors, les études dans des modèles animaux sont claires. Après, l'extrapolation à l'homme est toujours beaucoup plus difficile. On n'est pas, vous n'êtes pas une souris, moi non plus.
Voilà. Vous ne le savez pas forcément.
On n'est pas des méduses non plus, et donc il est vraisemblable que ce qu'on démontre chez la souris pourra être appliqué à l'homme, à la femme, bien évidemment. Le niveau de preuve chez l'homme est moins élevé. Néanmoins, on sait que le jeûne intermittent, pour moi qui suis hépatologue, va améliorer l'état du foie, va diminuer les enzymes du foie, ça va améliorer la pression artérielle, ça va diminuer le taux de sucre, ça va diminuer l'insuline, ça va diminuer le cholestérol, ça va diminuer les triglycérides, ça va diminuer les protéines de l'inflammation. Et donc, globalement, avec toute cette diminution va avoir une amélioration des voies métaboliques. Par conséquent, là, ce sont des extrapolations, mais vraisemblablement une diminution des voies qui favorisent le vieillissement, une amélioration peut-être de l'espérance de vie.
Mais par exemple, directement sur, puisque ça réduit l'inflammation, les maladies, par exemple, l'inflammatoire articulaire ou le syndrome du côlon irritable, ces maladies qui sont quand même liées à une inflammation, on a une action sur les patients, on le constate ou pas ?
Alors, sur le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose de très particulier, puisque l'inflammation du syndrome de l'intestin irritable, elle n'est pas du tout évidente à démontrer. Si tant est qu'il y ait une inflammation, elle serait au niveau microscopique, cellulaire, mais en termes métaboliques, il n'y a pas d'inflammation. D'accord. Dans le syndrome de l'intestin irritable. Quand vous mettez une personne qui a un syndrome de l'intestin irritable à jeun, elle va aller mieux, puisqu'il n'y aura pas de fermentation dans le tube digestif, il y aura moins de ballonnements, moins de météorites, la personne va se sentir mieux. Mais c'est pas les mêmes mécanismes que par exemple, quelqu'un qui va avoir un début de diabète, une pression artérielle élevée. En ce qui concerne les articulations, c'est moins démontré dans les maladies inflammatoires articulaires. On est plus dans ce qu'on appelle l'inflammation métabolique, la méta-inflammation pour metabolic inflammation.
Est-ce qu'on sait si jeûner a un intérêt pour notre microbiote dont l'équilibre est tellement important pour notre santé ?
Alors, les études sont très préliminaires. On ne sait pas, chez l'homme, aujourd'hui, si le jeûne a un intérêt quant au microbiote. Moi qui travaille beaucoup sur le microbiote, si vous me demandez mon avis, mais c'est mon avis, encore faut-il le démontrer pour que je dise pas n'importe quoi, mon avis c'est que quand vous jeûnez, le microbiote va se modifier, mais c'est pas tant le microbiote lui-même, c'est tout ce que va fabriquer, nos bactéries, ce qu'on appelle les métabolites, vont se modifier vraisemblablement pour avoir un effet bénéfique sur l'organisme, puisqu'on est, on est ce qu'on appelle un holobionte, un supra-organisme, un méta-organisme, on est nous-mêmes et nos bactéries. Il n'y a pas de raison que lorsqu'on arrête de donner de la malbouffe à nos bactéries, qu'on leur amène de la bonne bouffe avec un bon cycle nyctéméral, on les améliore également.
Quand vous dites la bonne bouffe, est-ce qu'on constate que les gens qui pratiquent notamment le jeûne intermittent, même s'ils en avaient l'habitude, mangent dans les périodes où ils mangent moins d'aliments ultra transformés, par exemple? Est-ce que ça modifie le reste de l'alimentation dans les pratiques?
Alors, c'est dans le 5-2, on dit les jours où on peut manger, c'est open bar. C'est justement ça. Il a été bien montré que les personnes qui commencent à faire attention à elles, qui rentrent dans un processus de 16-8 ou de 5-2, font attention à ce qu'elles mangent et améliorent non seulement leur biorythme, mais également la qualité et la quantité de leur alimentation.
L'espérance de vie, donc, on l'a évoqué. C'est quoi les mécanismes? C'est les actions dont on vient de parler, ou est-ce qu'il y aurait des effets spécifiques sur l'espérance de vie?
Alors là, on rentre dans les mécanismes de l'espérance de vie, les de la longévité. Il va y avoir, c'est des choses compliquées, mais par exemple, une amélioration de l'autophagie, c'est-à-dire les cellules vont pouvoir détruire leurs propres déchets beaucoup plus facilement. Il va y avoir une diminution de l'activation de voies inflammatoires qui jouent un rôle dans le vieillissement, de la voie qu'on appelle mTOR. Il va y avoir une diminution de l'inflammation, une amélioration des communications intercellulaires. Il va y avoir beaucoup de modifications qui vont se produire lorsqu'on modifie son alimentation et qu'on pratique de la bonne façon le jeûne intermittent.
Parlons du cancer, parce que c'est important, parce que on dit beaucoup, et ça circule beaucoup sur les réseaux, qu'en jeûnant, notamment avant les chimiothérapies, il y aurait moins d'effets secondaires, la chimiothérapie serait plus efficace, voire il y aurait un effet direct sur l'évolution d'un cancer. Et c'est vrai qu'il y a, du coup, il y a de nombreux malades qui jeûnent de leur propre initiative. Est-ce qu'ils se mettent en danger? Et qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui?
Alors, il ne faut pas confondre dénutrition et jeûne. Là, quand on parle de jeûne, on parle de jeûne chez une personne qui n'est pas dénutrie. Le rationnel pour le cancer, c'est que les cellules cancéreuses se multiplient beaucoup, ont besoin de sucre pour se multiplier. Donc, quand on jeûne, on a diminué l'apport de sucre. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle le rationnel en médecine ou en science, c'est qu'on améliorerait l'efficacité du traitement, on diminuerait les effets indésirables.
Sur le papier, c'est séduisant.
Sur le papier, c'est séduisant. On est tout au début des études. Quand on regarde cela, il y a plus de 1000 études dans le monde actuellement en cours pour pouvoir répondre à ces questions. Pour l'instant, ce sont des hypothèses. Les premiers résultats suggèrent que, effectivement, on pourrait diminuer les effets indésirables, mais c'est vraiment un niveau de preuve extrêmement faible. Sur l'efficacité de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, c'est encore vierge et il y a tout à faire pour savoir si c'est efficace ou pas. Il y a un rationnel scientifique et c'est la raison pour laquelle les études sont en cours. Et il ne faut pas faire de raccourcis. Aujourd'hui, en 2025, on ne sait pas encore.
On ne sait pas effectivement les patients.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que je dis que ce n'est pas efficace. Juste scientifiquement, et je suis un scientifique, on n'a pas la réponse encore.
Mais comme les patients qui ont un cancer peuvent être dénutris, ça peut être dangereux. Donc, c'est pour dire ça aux patients qui ont un cancer et qui voudraient le faire, on en parle à son médecin.
On en parle à son médecin et encore une fois, on parle d'une personne qui n'est pas dénutrie. Une personne qui est dénutrie et qui a un cancer, il faut au contraire l'alimenter, parfois même la nuit, avec une alimentation, parfois même par une sonde, pour justement qu'elle ne soit pas dénutrie, qu'elle puisse bénéficier dans son traitement. Et là, c'est juste le contraire.
On parle de dénutrition, mais est-ce qu'il y a d'autres des maladies ou des contre-indications qui font que qu'on ne doit pas jeûner, en tout cas pas sans avis médical?
Alors, chez l'enfant en période de croissance, chez la personne âgée, parce qu'il y a un risque de perte musculaire, qu'on appelle la sarcopénie. Chez une personne qui a de l'insuline, un diabète de type 1, ça peut être très compliqué. Chez une femme qui souhaite avoir un enfant, chez une femme enceinte, là, il n'y a pas d'indication à faire du jeûne intermittent.
Alors, loin des bienfaits, on trouve quand même des études qui rapportent que le jeûne pourrait augmenter le risque de cancer du côlon et de maladies cardiovasculaires.
Alors, c'est très intéressant et c'est là où, en tant que médecin et scientifique, c'est très bien qu'il y ait des études qui aillent dans l'autre sens parce que ça permet d'en discuter. En ce qui concerne le risque cardiovasculaire, il y a effectivement une étude qui montre ça sur beaucoup de personnes, sur 20 000 personnes.
À long terme, hein, bien sûr.
À long terme. C'est à l'opposé de toutes les autres études et à l'opposé des résultats qu'on observe chez les animaux. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi ? Et donc, quand on reprend cette étude, d'une part, l'étude, elle n'est pas publiée, c'est juste un poster, donc elle n'a pas été revue par les pairs, donc elle est encore sujette à critique. D'autre part, on ne sait pas quand les personnes ont jeûné. Et donc, c'est pas pareil de jeûner le matin ou quand vous jeûnez le matin, effectivement, il est possible qu'on augmente le risque cardiovasculaire, alors que jeûner le soir, vous allez l'améliorer. On ne sait pas si les personnes qui ont participé à cette étude, ce qu'elles mangent lorsqu'elles ne jeûnent pas. On ne sait pas quel est leur état de santé de base. Et je pense que cette étude, qui est à l'opposé de tout le métabolisme et de toutes les autres études, les résultats sont réels, mais les résultats doivent être interprétés avec, je dirais, délicatesse ou circonspection pour savoir où on va. Et quand une personne décide de jeûner, elle en parle à son médecin et on fait de la médecine non pas statistique et individuelle et on regarde si lorsque la personne jeûne, elle améliore son taux de sucre, ses triglycérides, ses enzymes du foie et comme ça, on est sur de la médecine individuelle et pas statistique. En ce qui concerne le cancer du côlon, c'est pas tant le jeûne qui pourrait augmenter le cancer du côlon, c'est une mauvaise réalimentation derrière. C'est chez des souris que ça a été suggéré. Quand on met une personne en jeûne, pas une personne, une souris en période de jeûne, en fait, on dit qu'on prime, c'est-à-dire que ces cellules du côlon vont être prédisposées à trop se multiplier au moment de la réalimentation, en fait un retour de balance. Et donc, il faut faire très attention à la façon dont on se réalimente après une période de jeûne. Et c'est chez la souris, c'est pas chez l'homme. Et c'est à partir de ces résultats qu'on interprète ce qu'il faut faire en pratique clinique.
D'où l'importance du suivi médical. Alors, si l'on veut et que l'on peut pratiquer ce jeûne intermittent, comment faire ? On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
On parle donc d'une pratique très répandue, le jeûne et notamment le jeûne intermittent, avec le professeur Gabriel Perlemutter, chef du service d'hépato-gastro-entérologie et de nutrition de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Anthony Thomasson et à la vidéo Guillaume Ficheux. Donc on a vu qu'il existait différents types de jeûne, hein, et notamment de jeûne intermittent. Comment on choisit celui que l'on va adopter? Ça dépend de quoi en fait?
Alors, ça dépend d'une part de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on peut faire, et il ne faut pas rentrer dans la frustration, parce que si à partir du moment où une personne entre dans la frustration, on entraîne un niveau d'anxiété élevé, on a justement envie de ce qu'on ne peut plus faire, on va augmenter son niveau de cortisol, on va augmenter son niveau d'adrénaline, et donc on court à l'échec. Et donc, quand on décide de faire du jeûne, on a envie de le faire, on s'y prépare et on choisit la méthode qui convient à son mode de vie. Et j'en prends moi pour exemple, je sais qu'idéalement, ce serait le dîner que je dois sauter, sauf que quand je rentre chez moi le soir, j'ai envie de dîner avec mes filles, avec mon chien, et donc, je sais pas le dîner que je saute. Je ne saute
sinon
pas non plus.
Vous ne tiendriez pas, et ça serait de la frustration.
Absolument,
ça
et puis je serais malheureux.
Bien sûr.
Et en plus, il y a une part sociale, quand on dîne le soir, on peut aussi sortir avec des amis, aller au restaurant.
Et donc on là, prend moins le petit déjeuner avec des amis au restaurant.
Absolument. Mais en termes métaboliques, on sait que sauter le petit déjeuner est associé à une augmentation du risque cardiovasculaire. On sait que sauter le petit déjeuner est associé à une méta-inflammation, à une obésité. C'est pas le petit déjeuner qu'il faut sauter. Donc, quand on décide de faire du jeûne intermittent, on prend son petit déjeuner. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre le petit déjeuner, on y va tout doucement. On prend par exemple juste une demi-tartine ou une tartine ou un fruit, une pomme ou des myrtilles ou un café. On démarre tout doucement. Et après, on va alléger le dîner. Dans tous les cas, le dîner doit être allégé et pris au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Et idéalement, puisque le taux d'insuline est élevé, il faut éviter de l'élever pendant la nuit, limiter ses apports en sucre, en glucides, le soir. Et quand je parle de glucides, il y a beaucoup de confusion chez mes patients. C'est pas simplement le petit morceau de sucre ou le petit morceau de chocolat, c'est tous les féculents,
c'est
pain,
aussi les pâtes, le riz,
pommes de terre, qui sont aussi très riches en glucides. Je ne dis pas qu'il faut pas les prendre. J'en prends moi-même. Je dis simplement qu'il faut faire attention aux quantités.
Et si possible, avoir 2 fois plus de légumes que de féculents.
Absolument. Et toujours les assiettes de mes patients, je leur recommande de les colorer, de limiter, d'enlever 20%, 1/5 du féculent et d'ajouter systématiquement du rouge avec de la tomate, du vert avec des brocolis, des épinards, des haricots verts, ce que vous voulez, mais toujours couper pour diminuer l'apport en féculents, augmenter une alimentation qui va faire plaisir à votre microbiote, à vos bactéries, augmenter l'apport en légumes.
Si on fait un jeûne intermittent, mettons pendant 6 mois et qu'on décide d'arrêter, quel conseil suivre pour que tout se passe bien? On arrête du jour au lendemain, on fait quoi?
C'est très théorique parce que c'est rare que ça se passe comme ça chez les personnes. Quand on décide d'alléger ce jeûne intermittent, eh bien, on fait attention à l'effet rebond. L'effet rebond, c'est bien connu chez les personnes qui ont perdu rapidement beaucoup de poids ou simplement en arrêtant les efforts, elles vont regrossir très vite, voire plus que le poids qu'elles avaient avant d'en perdre. Ce qu'on appelle l'effet rebond, l'effet yo-yo, il est lié au fait que les bactéries qu'on a dans le tube digestif ont été mises en carence et vont extraire, par exemple, plus d'énergie d'un même apport alimentaire. Et par conséquent, lorsqu'on décide d'arrêter le jeûne intermittent, on fait attention à ne pas apporter trop de glucides, et donc trop de féculents, pas de jus de fruits, pas de confiture, ou moins. On fait attention à ça et on fait également attention à pas le compenser en apportant trop de protéines, en particulier de protéines animales, qui sont les protéines, on a parlé du cancer du côlon, qui peuvent favoriser dans ces modèles animaux la prolifération de cellules coliques et qui participent au vieillissement. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans le même ordre d'idée, je déconseille à mes patients des compléments alimentaires riches en acides aminés, pour faire du muscle, parce que ça participe au processus du vieillissement.
Un mot sur les stages de jeûne et marche qui sont très tendances, qui consistent en gros sur 4 à 10 jours en groupe à marcher tous les jours tout en jeûnant, parfois pour plusieurs milliers d'euros. Si on a plusieurs milliers d'euros à dépenser, très bien, mais est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça a un risque?
Alors ça a un intérêt, ça a un risque, les deux. Mais tout ce qu'on fait a un intérêt, un risque. Tout dépend de l'intérêt qu'on veut y mettre et du risque qu'on veut y prendre. Quand vous mangez trop de haricots verts, ça a un intérêt, vous risquez d'avoir mal au ventre. Tout c'est comme ça en médecine et en sciences. L'intérêt, c'est que, à l'évidence, vous allez vous améliorer quand vous vous mettez en jeûne, vous allez produire des corps cétoniques, vous allez améliorer votre métabolisme, et c'est exact. Et puis vous devez marcher pour pas perdre du muscle, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Le risque, c'est quoi? C'est l'effet rebond. L'effet rebond peut être à court terme, quand vous êtes en période de jeûne, ce qu'on appelle le syndrome de renutrition inappropriée, avec des troubles du rythme cardiaque. Et quand vous faites ça, il faut le faire sous surveillance médicale pour ne pas faire une mort subite à la réalimentation. C'est très rare, mais si ça tombe sur vous, bah c'est game over. Et faut faire attention sur le long terme à pas avoir l'effet rebond, l'effet yo-yo qu'on a eu. Mais il est exact que si pendant 15 jours, 3 semaines, vous jeûnez, moi je n'ai jamais recommandé ça à mes patients, mais vous allez améliorer votre métabolisme si vous êtes au départ en surpoids. Mais votre vie doit durer 85, 90 ans, 100 ans, 120 ans, et n'est pas une vie de 3 semaines. Et ce que vous faites, il faut l'évaluer sur le long terme. Si c'est un levier pour que vous alliez mieux après, où là c'est intéressant, et si c'est juste ponctuel, et puis après vous retombez dans vos habitudes néfastes habituelles, ça n'a pas d'intérêt, voire ça peut avoir un effet néfaste du fait de l'effet yo-yo ou rebond sur le métabolisme.
Merci beaucoup. Je voudrais dire, pour tous ceux qui souhaitent jeûner ou en savoir plus, votre livre est extrêmement concret et pratique. On a l'impression que vous vous adressez à vos patients qui viendraient vous consulter. Donc, je pense que c'est des questions d'ailleurs posées par des patients. Donc, allez-y, c'est passionnant. Professeur Gabriel Perlemutter, jeûner en mangeant, santé, forme, poids, longévité. Toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur ce jeûne intermittent, c'est chez Flammarion Versilio.
Je vous remercie.